Bonjour à chacun. Merci pour vos prières et votre communion. Ce matin, j'avais envie de lire un texte avec vous en pensant que voilà, cette semaine, on a célébré, fêté l'ascension, la montée aux cieux de Jésus. Et puis finalement, et après, et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui se passe pour le peuple de Dieu après cet événement-là ? Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir un texte, à ouvrir vos Bibles, un texte. Alors souvent, on ouvre nos Bibles comme ça. Et bien, cette fois, on peut aller dans l'autre sens et aller jusqu'au dernier chapitre de notre Bible, le chapitre 22 de l'Apocalypse, qui pour moi, ce matin, prend une teinte très différente de ce que j'avais préparé. Voilà, Dieu nous surprend aussi et nous bénit par sa parole. Et je vais lire le chapitre en entier, même si on n'aura pas le temps de discuter de tout. Mais quand on arrive à la fin d'un livre, on ne s'arrête pas 5 pages avant la fin, c'est extrêmement frustrant. Alors, je vous invite à lire le chapitre en entier. Puis par la suite, on s'intéressera surtout aux 5 premiers versets. Alors, je vous invite à la lecture du chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Donc l'ange montre à Jean un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ce chapitre de la Bible. Souvent on le connaît, peut-être qu'on le lit un peu moins. On a l'habitude d'entendre parler de l'Apocalypse, mais on lit moins les textes, ou bien on en a tellement entendu qu'on les connaît assez bien pour arrêter de les lire. La première partie de ce texte nous décrit comment sera ce paradis, ce royaume qui vient, ce royaume dont nous parlons depuis le début de l'année 2016, ce royaume qui est déjà venu avec Jésus, mais qui viendra encore plus à ce moment-là. Les 5 premiers versets nous décrivent ça. Et il y a c'est très imagé, il y a beaucoup d'images, beaucoup de symboles, beaucoup de couleurs. On peut vraiment se représenter quelque chose dans notre esprit. Et j'aimerais vous inviter ce matin à fermer les yeux et à réécouter ces 5 premiers versets en essayant de vous imaginer à quoi ça ressemblera, à quoi ressemblera ce royaume qui vient. Alors je vous invite à fermer les yeux pendant que je relis ces 5 premiers versets. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Gardez cette image en tête pour la suite de ce matin. Ce texte, le début de ce texte, nous plante un peu un décor du royaume qui vient. La première chose qui, pour moi, est vraiment ressortie dans ma lecture de ce texte, qui m'a frappée, c'est le trône, la présence du trône. Un trône royal, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un trône qui représente la royauté. Dans le royaume qui vient, il ne s'agit pas seulement d'être dans la présence de Dieu, ce qui serait déjà beaucoup. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il ne s'agit pas seulement de retrouver un Dieu qui a été un prêtre pour nous, un Dieu qui a fait des miracles pour nous, un Dieu qui a guéri. Non, dans le royaume qui vient, on retrouve le Dieu qui est roi, le Dieu qui règne, le Dieu qui est souverain. Et je crois que toute notre espérance chrétienne, toute notre foi, tout ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours en tant que chrétiens, et la raison aussi pour laquelle nous nous rassemblons dans cette église, pointe dans cette direction, dans l'espérance de retrouver ce Dieu qui règne, ce Dieu roi, dans l'espérance d'attendre que le royaume vienne enfin complètement s'établir sur cette terre. On a beaucoup parlé du royaume ces derniers dimanches. Peut-être que vous vous êtes posé la question, ou alors je vous la pose. Finalement, où est ce Dieu roi dans nos vies aujourd'hui? Où est-il? Quelle place a-t-il? Dans quels événements est-ce que vous arrivez à voir ce Dieu roi? Lorsque des personnes autour de nous sont malades, décèdent, lorsqu'on traverse des difficultés, quand on voit la fin dans le monde, des événements dramatiques, terroristes, où est ce Dieu roi dans notre vie? Parfois, c'est dur de répondre. Parfois, on cherche, on ne le trouve pas, on ne le sent pas près de nous. Parfois, on ne comprend pas comment Dieu roi permet tant de difficultés, tant de souffrances. Mais ce qui est certain, c'est que là, dans ce royaume qui vient, la question ne se pose même plus. Si nous, aujourd'hui, nous cherchons Dieu dans nos vies, on cherche à savoir quels événements reflètent qu'il a agi dans nos vies, quelles personnes sont des vecteurs de son royaume pour nos vies, eh bien, dans ce royaume-là, la question ne se pose plus du tout. Bien sûr, nous, on vit dans un monde avec une difficulté qui est celle de cette relation qui est brisée à notre Dieu, cette sorte de voile qui est venue sur notre relation avec Dieu depuis le tout début, hein, depuis Adam et Ève, depuis que nous avons été séparés de Dieu, parce que la sainteté de Dieu n'est pas compatible avec le péché. Et nous sommes héritiers de ce péché, séparés de Dieu, parce que c'est pas compatible, on peut pas se tenir en présence de Dieu avec notre statut de pécheur. Et d'ailleurs, chaque personne de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui s'est retrouvée en présence de Dieu, ou ne serait-ce qu'en présence d'un symbole de Dieu, je pense au buisson ardent, ou en présence d'un envoyé de Dieu, je pense aux anges, toutes ces personnes-là sont toujours tombées à genoux dans la crainte, sans être même face à Dieu, mais face à quelque chose qui touchait à Dieu, la crainte a pris le dessus, en réalisant peut-être soudainement la sainteté de Dieu et combien chacun d'entre eux était pécheur comme nous le sommes tous. Mais dans le royaume qui vient, Dieu, l'agneau, sont au milieu de la ville, au milieu du peuple. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de blocage, de choses qui nous séparent de Dieu. Dieu est au milieu de la ville du peuple, d'une manière qui est finalement toute nouvelle pour nous. Et même, est-ce qu'on arrive même à l'imaginer dans cette représentation que vous êtes faite tout à l'heure dans votre tête, est-ce que c'était facile d'imaginer ce Dieu au milieu du peuple et de le ressentir aussi dans nos émotions? Comment Dieu sera au milieu du peuple? C'est un peu, moi, je trouve que c'est difficile à imaginer, en tout cas. Mais Dieu sera là. On pourrait dire comme Dieu qui se promenait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais avec une nuance, c'est qu'il sera toujours là. Dans le récit de la création, on nous dit que Dieu se promène dans son jardin. Alors à d'autres moments, on ne nous le dit pas. Peut-être que Dieu n'était pas dans cette même présence. Dans ce récit-là, dans le royaume qui vient, Dieu est là, au milieu. On sait où le trouver. Il sera là à chaque instant. Nous verrons sa face. Il y a un autre élément qui est frappant dans ce texte aussi, c'est le fleuve d'eau qui est très présent. Le fleuve d'eau de la vie. Dans toute la Bible, l'eau représente souvent la vie, et puis souvent, cette vie, elle vient même de Dieu. Ce texte, il nous fait tout de suite penser à un autre texte, qui est celui d'Ézéchiel, si vous vous souvenez, cette prophétie qui annonce le fleuve de vie qui sort du temple et qui va refleurir des déserts. Je pense qu'il y a vraiment une référence claire à ce texte-là, c'est pas anodin. Mais ici, c'est une référence avec une différence. En fait, on va voir tout ce qui est présenté ici sont des références avec des différences. Ici, l'eau, elle ne sort pas d'un temple. Elle sort du trône de Dieu, de l'agneau. Elle sort de leur personne même, d'eux-mêmes. La vie viennent de Dieu et de l'agneau eux-mêmes. Dans le royaume qui vient, le temple disparaît. Il n'y a plus besoin de temple. Il n'y a plus besoin de contenir la présence de Dieu dans des murs, avec toutes sortes de rites de pureté pour pouvoir entrer dans ce temple, avec toutes sortes de rites de sacrifices pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. Non, dans le royaume qui vient, la présence de Dieu est immédiate, spontanée. On est directement en lien. Dieu est au milieu du peuple. Et puis cette eau, elle n'est pas seulement là pour faire un décor paisible et accueillant pour nous. Dans cette eau, elle joue aussi un rôle et elle donne naissance à un arbre de vie. Là encore, on pense tout de suite à un texte auquel vous pensez aussi certainement avec moi. Évidemment, l'arbre de vie nous fait penser à la Genèse, exactement, la Genèse où déjà se trouve l'arbre de vie. Et encore une fois, avec une différence. Dans le royaume qui vient, cet arbre de vie, il n'est pas seulement disponible pour deux personnes, Adam et Ève. Il est disponible pour tout le monde. Il fait son fruit en tout temps. 12 fois par année, toute l'année. Le fruit est inépuisable. Et puis ce fruit, il est utile pas seulement à deux personnes, Adam et Ève, mais à toutes les nations, nous dit le texte. C'est un fruit qui vient pour la guérison de toutes les nations. Tout le monde, tous ceux qui ont accepté d'être sauvés, tous ceux qui sont entrés dans ce royaume qui vient, sont guéris par l'arbre de la vie. Souvenez-vous, dans le texte de la Genèse, lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, avaient été chassés du jardin, ils ont été empêchés à tout jamais, en fait, d'atteindre, de rejoindre cet arbre de la vie à cause de leur péché, du premier péché. Et puis cet arbre de la vie, il avait été protégé par un corps de séraphins qui tenait une bonne garde sur l'entrée du jardin. Et à tout jamais, Adam et Ève étaient devenus un homme et une femme mortels, dans un monde qui était finalement devenu un monde de souffrance, un monde de travail, un monde où il y a des difficultés. Et cette décision, on le voit dans le texte, a été irrévocable de la part de Dieu. Il n'y a pas un moment donné dans la Bible où un personnage a eu la grâce de pouvoir remettre un petit orteil dans le jardin d'Éden. Non, ça a été une décision une fois pour toutes. L'accès à cet arbre de vie était fini. Même les plus grands prophètes qui ont eu des grandes révélations de Dieu, même Abraham, même Moïse, même les disciples de Jésus, même le disciple que Jésus aimait, il n'y en a pas un seul qui a pu de nouveau avoir la grâce d'accéder à cet arbre de vie. Pas même eu la grâce de savoir où il fallait peut-être commencer à chercher. Non, c'est un accès qui était terminé, fini. Parce que l'humanité était plus digne de recevoir cette vie. L'humanité pécheresse était plus digne de vivre éternellement avec un péché. Ça a été une malédiction pour Adam, pour Ève, pour toute l'humanité, pour nous, pour chacun d'entre nous. Eh bien, notre texte nous offre une promesse merveilleuse. Est-ce que vous l'avez repérée ? Il n'y aura plus de malédiction. Quelle magnifique promesse ! Il n'y aura plus de malédiction. Moi, j'ai souvent entendu ce texte en disant, de manière générale, il n'y aura plus tout ce qui est lié au mal, à la malédiction. Mais je crois vraiment que le texte va au-delà de ça, en fait. Dans le contexte qu'on est en train de dresser, là, le décor qu'on a planté, qui fait toutes ces références à la Genèse, à la création, je pense que cette phrase « il n'y a plus de malédiction » est bien plus forte que ce qu'on met dedans, nous, souvent. D'ailleurs, le mot est au singulier, c'est pas un pluriel, hein, il n'y aura plus de malédiction en général dans la vie de tous les jours. Non, c'est vraiment un singulier. Il n'y aura plus la malédiction. C'est une référence à un événement clair, qui est tellement clair et tellement seul événement qu'on pourrait désigner, qu'il n'y a même pas besoin de préciser de quelle malédiction il s'agit. C'est la malédiction. Il n'y aura plus la malédiction. Et cette malédiction, c'est celle qui a changé le cours de l'histoire pour toute l'humanité. Cette malédiction, c'est celle qui a fait que chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, ados, peu importe notre âge, notre contexte, notre histoire, chacun d'entre nous, nous sommes séparés de Dieu au plus profond de notre être. Eh bien, cette malédiction-là ne sera plus. Elle ne sera plus. Encore une fois, je crois qu'on ne peut juste pas s'imaginer ce que c'est en fait. Parce qu'on est tous sous cette malédiction. On n'a jamais connu autre chose et je pense qu'on n'arrive pas à réaliser ce que c'est. On ne peut que croire en cette promesse-là, il n'y aura plus de malédiction. Encore une fois, je crois que c'est pas seulement, le texte dit pas seulement qu'on sera pardonné pour notre temps d'égarement, pas seulement pardonné et ensuite on construira une nouvelle relation plus saine, plus profonde avec Dieu, comme quand on a un ami proche, une amitié dans laquelle il y a un conflit et puis ensuite petit à petit on commence à passer par un temps de repentance, de pardon mutuel et puis on reconstruit quelque chose de plus sain, on retrouve une confiance. Non, ce texte nous indique vraiment une spontanéité. Il n'y aura plus cette malédiction, tout sera oublié, effacé, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Alors, est-ce que c'est un retour au paradis perdu, finalement ? Il n'y aura plus rien, on reviendra à tout ce qui était tellement beau, tellement parfait dans ce paradis. En quelque sorte, Dieu mettra entre parenthèses tout ce long moment d'égarement où l'humanité a péché, s'est éloignée de Dieu, où les gens ont fait leur propre choix. Et on reviendra à cette période bénie du jardin d'Éden, qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, dont on n'a que connaissance à travers des textes. Mais je crois que ce n'est même pas ça, en fait. C'est même pas ça. Le royaume qui vient, c'est justement pas un retour en arrière. Comme si la période entre les deux n'avait pas de valeur et comme si c'était un temps où Dieu nous avait laissé nous égarer. jusqu'à ce que le bon moment soit venu. Je crois que le royaume qui vient tient compte de tout ce que nous avons vécu pendant cette période, entre le jardin d'Éden et le royaume qui vient. Et pourquoi je crois ça ? Pourquoi ? Parce que le royaume qui vient, c'est pas seulement une structure politique, militaire, mais le royaume qui vient, c'est en fait un roi qui vient, un roi qui est relationnel, un roi qui n'est pas un roi politique, stratégique, militaire, mais un roi qui se préoccupe des gens, qui se préoccupe de ses sujets, un roi qui vit dans la relation. Un roi qui tient compte de qui nous sommes dans tout notre être, au fond. Finalement, j'ai envie de dire, c'est plutôt un royaume qui subirait une mise à niveau, pour ceux qui sont qui suivent mon langage informatique 2.0, une mise à niveau du royaume. Alors, ça ne veut pas dire, je pense, que ça sera mieux qu'Éden. Qu'Éden était imparfait, que le jardin d'Éden n'était pas tout à fait complet pour être bien. Mais seulement que ce royaume qui vient tient compte maintenant de qui nous sommes, de ces années d'évolution de l'humanité, toute cette histoire que nous avons accumulée, cette expérience, cette relation aussi qu'on a eue avec Dieu pendant tous ces millénaires. Et c'est pour ça, je pense, que l'Apocalypse, ce chapitre, fait énormément référence à la Genèse, puis à Ézéchiel, parce que ça montre cette progression qui suit l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que ce qui nous est décrit dans le reste de l'Apocalypse, un tout petit peu, on a une petite mention dans ce texte, mais c'est plus décrit dans le reste, ce royaume qui vient n'est pas un jardin, mais une ville. Parce que l'humanité a commencé dans un jardin, et puis ensuite sous tente, puis ensuite dans des petits hameaux de tente, des villages, des villes. Maintenant, on est dans des mégapoles dont on n'arrive plus à voir le bout. Mais Dieu tient compte de ça, tient compte de ce que nous avons vécu et ne nous propose pas un royaume qui vient sous forme de jardin mais sous forme de ville. C'est merveilleux de voir comment Dieu nous accompagne dans notre vie humaine. Finalement, le royaume qui vient, c'est comme une apothéose à la fin de l'histoire du salut. C'est pas, je pense, une passerelle qui nous renvoie en arrière. Non, c'est la conclusion de toute cette histoire du salut que Dieu avait prévue bien d'avance et qu'il a dirigée. Alors, avec tout cela, on a envie de dire une seule chose. Enfin, j'espère qu'avec moi, vous voulez dire une seule chose. C'est « Viens, Seigneur Jésus, viens, reviens avec tout ce que tu nous promets, cet arbre de vie, la guérison, plus de malédiction, plus de séparation avec toi. Mais viens, Seigneur Jésus. » On n'a envie que de ça. Et d'ailleurs, Jésus ne nous déçoit pas. Jésus ne nous déçoit pas. Il dit « Oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. » C'est une promesse qui est très importante dans ce chapitre-là de l'Apocalypse. La formule « Je viens bientôt » littéralement texto se retrouve 5 fois dans l'Apocalypse, dont 3 dans ce chapitre, à la fin du livre. Alors que le livre se conclut, qu'on pourrait se dire « Ah, mais il y a quoi après? On n'a pas le tome 2, on ne sait pas ce qu'on doit faire. » Mais non, dans ce chapitre, Jésus nous rassure « Je viens bientôt. » Réfléchissez un instant, quelle est la dernière promesse que vous-même vous avez faite en utilisant le mot « bientôt » Vous avez peut-être dit à vos enfants « Oui, je viens bientôt t'aider pour les devoirs. » Vous avez peut-être dit à votre mari « Oui, je ferai bientôt les factures. » Ou à votre épouse. Quelle est la dernière promesse que vous avez utilisée, que vous avez dite en utilisant le mot « bientôt » Et puis, qu'est-ce que ça signifiait pour vous, ce « bientôt » Est-ce que c'était un « bientôt » qui devait durer quelques secondes, quelques minutes, quelques jours? Quelle nuance vous avez mis sous ce bientôt? En général, quand on utilise le mot bientôt, c'est vraiment très rapide. On ne dit pas bientôt si on pense le faire dans un an. Après, bien sûr, on échoue parfois et notre bientôt devient très lointain. Mais la promesse de départ de ce bientôt signifie le plus rapidement possible si on est honnête au moment où on le dit. Bien, ici aussi, je pense que le bientôt a vraiment un sentiment d'imminence. C'est la fin du livre, c'est la fin de l'histoire de l'humanité racontée par la Bible, et ce bientôt a vraiment une notion d'imminence. Ça peut arriver à chaque instant, c'est bientôt. C'est pas dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, c'est bientôt. Maintenant, la question de que signifie ce bientôt pour Jésus nous étonne un peu, finalement, comme nous on utilise bientôt en s'attendant à quelques mois, enfin quelques jours, quelques semaines. On est un peu étonné de l'attente, mais voilà, Dieu nous dépasse, je pense, dans lui sa préparation de l'histoire. Mais c'est maintenant, c'est bientôt. Si on regarde un peu les autres passages du Nouveau Testament où le mot bientôt est utilisé, ils sont très peu nombreux. Et puis, il y a toujours, toujours ce sentiment d'imminence et même plus. Par exemple, il y a ce passage qui dit que lorsqu'on a une discorde avec quelqu'un, il faut aller s'accorder bientôt avec cette personne, de peur d'être livré au tribunal. Donc il y a vraiment un sentiment même d'urgence cette fois-là, un sentiment d'urgence. Il faut se rabibocher avec cette personne bientôt, vite, rapidement, sinon on pourrait tomber sous le coup des tribunaux, être mis en procès. De la même manière, à la résurrection, lorsque les femmes sont témoins de la résurrection du Christ, l'ange leur dit « Allez vite, allez bientôt dire aux disciples ». Ça ne veut pas dire d'ici quelques semaines essayer de leur faire savoir que je suis ressuscitée. Non, c'est immédiat, c'est urgent, allez vite maintenant. Pas de peur que, mais parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on ne peut pas tarder à partager. Et encore dans un autre texte, c'est lorsque le fils prodigue revient, le père dit à ses serviteurs, allez vite, allez bientôt chercher une belle tunique pour mon fils. Là, de nouveau, c'est pas d'ici quelques semaines, c'est maintenant, il est revenu, donnons-lui cette belle tunique. Dans tous ces textes, on a plus envie de traduire par « vite » que « bientôt ». Peut-être qu'on peut traduire ça aussi « je viens vite ». C'est le même sentiment d'urgence, le même sentiment d'imminence pour le retour de notre Sauveur, pour le retour du Christ. Lui aussi, il vient bientôt. Alors pourquoi une urgence, justement? On peut se demander, est-ce que c'est une urgence de peur que? Une urgence, viens vite Seigneur, de peur que ce monde finisse trop difficilement, de peur qu'on subisse des persécutions, de peur qu'on continue de vivre dans ce monde dur, ce monde de souffrance, ce monde de deuil. Ou ça peut être une urgence parce qu'on se réjouit, parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on veut qu'elle arrive maintenant. On s'en réjouit. Viens Seigneur Jésus parce qu'on est impatient de te voir. Viens Seigneur Jésus parce qu'on est impatient de vivre dans ce royaume où on sera dans ta présence, où on vivra de ta vie. Qu'est-ce qui vous pousse à attendre le retour de Jésus? Quel est votre état d'esprit? Une urgence de peur que? Ou une urgence de réjouissance? Qu'est-ce qui vous pousse à attendre le retour du Christ? Peut-être un peu des deux aussi. C'est pas un ou bien. Peut-être qu'il y a un peu des deux, certainement qu'il y a un peu des deux. Malheureusement, même si parfois ce sentiment d'urgence vient nous habiter profondément, très souvent il se dissipe. Très souvent ce sentiment d'urgence disparaît, se laisse couvrir par notre routine, notre vie, nos autres préoccupations. Est-ce que vous avez un sentiment d'urgence du retour du Christ chaque jour? Quand vous vous levez le matin, quand vous prenez votre douche, quand vous mangez votre soupe le soir, vous vous dites « vite, encore une cuillère parce qu'il pourrait revenir et c'est tellement bon ». Comment est-ce que vous vivez ce sentiment d'urgence? Et je me pose la question à moi-même aussi. Est-ce qu'on arrive encore à réaliser que ce royaume vient bientôt, il vient vite? Que Jésus pourrait revenir aujourd'hui, maintenant, il pourrait revenir cet après-midi, il pourrait revenir demain. Il y a une épître dans le Nouveau Testament où les gens l'ont très bien réalisé, c'est l'épître aux Thessaloniciens. Si vous lisez un peu du début à la fin, 1 Thessaloniciens puis 2 Thessaloniciens, vous verrez que dans 1 Thessaloniciens, Paul dit « Le Christ revient bientôt, soyez prêts, persévérez, il revient bientôt. Puis dans l'épître 2, il dit, bon, quand même remettez-vous à travailler, parce qu'on ne sait pas quand il viendra. Il vient bientôt, mais quand on ne sait pas, continuez de vivre votre vie de chrétien. Entre les deux épîtres, les Thessaloniciens vivaient tellement cette urgence du retour du Christ qu'ils se sont dit, bah, finalement, s'il revient bientôt, on peut arrêter de travailler, on n'a plus besoin de travailler finalement. Mais ça montre bien cette notion de déjà et pas encore que nous vivons nous aussi. Être dans l'urgence et en même temps continuer cette vie sans savoir à quel moment ça pourra arriver. C'est paradoxal finalement. Alors tout à l'heure, on va avoir un temps de Sainte Cène. On aura l'occasion aussi de célébrer ce moment-là qui fait partie de ce qu'on continue de vivre en attendant le retour du royaume. Quand on prend la Sainte Cène, on se remémore tout ce qu'a fait Jésus, on se remémore sa mort, sa résurrection. Aujourd'hui, on se remémore aussi particulièrement son ascension. Il est monté au ciel. Et puis, finalement, cette Sainte Cène, jusqu'à quand la prendra-t-on? Si je fais travailler vos mémoires... Ouais, je l'entends. Ouais. Ouais. C'est ce que Jésus dit lui-même lorsqu'il nous donne la Sainte Cène, ce sacrement de la Sainte Cène, jusqu'à mon retour, jusqu'à son retour. Je pense que Dieu en fait est bon pédagogue et qu'il savait qu'on est rapide à oublier cette urgence, cette imminence, qu'on est rapide à retomber dans nos préoccupations de cette terre, à nous retomber dans nos difficultés, nos souffrances, à voilà, nos tristesses comme moi j'en vis aujourd'hui. Mais Dieu nous donne en bon pédagogue cette tradition, ce rituel pour se souvenir que ce qu'on fait, on ne le fait pas seulement pour se souvenir du passé, pour se rappeler d'Éden en se disant oh, « c'était tellement bien avant », pour se souvenir de ce que Jésus a fait, mais on le fait aussi dans une optique du royaume qui vient, dans l'optique de son retour, dans l'optique de cette vie dans la présence de Dieu. Et comment vivrons-nous cette urgence, comment vivrons-nous cette attente du royaume de Dieu? On aura l'occasion d'aller plus loin sur cette question dans les semaines qui viennent avec d'autres prédications sur cette thématique. Pour aujourd'hui, on se souvient simplement. On revit cette urgence du royaume qui vient, et cette espérance aussi que ce royaume qui vient n'est pas seulement une structure politique militaire, mais c'est un royaume relationnel, un roi relationnel, un royaume qui vient pour que nous soyons en relation avec Dieu. Alors finalement, tous ensemble, on peut s'accorder avec cette parole qui conclut le livre, qui est la dernière phrase de ce livre. Quand j'aime beaucoup lire les romans, je trouve que les dernières phrases sont très importantes. Et il y a des dernières phrases de romans où on se dit oh, « c'était juste parfait, ça finit très bien » ou « ça finit très mal, mais c'est bien écrit ». Il y a d'autres romans où, tout à coup, à la fin, on reste un peu sur notre fin, puis tout devient fade dans le livre, finalement. Eh bien, moi, je trouve que cette phrase est très bien écrite. Que cette phrase... tombe pile pour la fin de ce livre. Maranatha, qui signifie « Viens, Seigneur Jésus ». Nous sommes impatients que tu viennes, Seigneur Jésus. Maranatha ne signifie pas « Que ton royaume vienne », mais « Viens, Seigneur Jésus ». Nous attendons un roi relationnel. Nous attendons une personne qui amène toutes ses promesses. Alors, j'aimerais terminer en priant très courtement cette phrase et je vous invite à la dire avec moi pour conclure cette méditation. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen.